Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci de nous rejoindre dans Radio Foot International sur RFI, bien sûr votre rendez-vous avec le football planétaire. Et nous commencerons en Afrique avec ce nouveau verdict surprenant de la part de la CAF. La Confédération africaine fera rejouer la rencontre de Ligue des Champions Zamalek Génération Foot le 24 octobre prochain. Le changement de lieu en dernière minute avait semé la zizanie entre Sénégalais et Égyptiens. Est-ce une bonne solution ? La réponse du côté de Dakar. Une affiche de gala historique même demain soir pour quelques privilégiés à Singapour. Sénégal, Brésil, soit un face-à-face entre des lions vice-champions d'Afrique et des stars vainqueurs de la Copa América. Aliou Cissé promet de conserver sa philosophie de jeu pour gêner les hommes de Tité. Un champion du monde sacré à Rio en 2014 se retire, un monument du football allemand. Bastian Schweinsteiger raccroche à 35 ans en promettant de rester dans le domaine qui est le sien depuis si longtemps. Donc Sean Bastille pour ces beaux moments. Et justement, nous en parlerons avec quelqu'un qui parle beaucoup mieux allemand que moi, David Lortolari, bonjour.
C'était pas mal du tout, Annie. Bonjour, bonjour à tous.
Comment on dit Guten Tag, c'est ça
Guten Tag, on peut encore dire à cette heure de la journée. Guten Tag.
Ou alors on dirait quoi?
Guten Abend pour le soir.
Ah oui, bon, on est entre les deux là, ouais. On va dire, entre chien et loup. Alors après, on a battu le rappel de nos spécialistes africains pour les sujets du jour. Patrick Juillard, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Merci. Et puis aussi Philippe Doucet. Bonjour Philippe.
Bonjour Madame Annie.
Un camarade de Canal+. Patrick Juillard, c'est Foot Afrique 365.
Foot 365 Afrique.
Afrique,
voilà.
Pardon, c'est dans l'autre sens.
Dans l'Europe.
Votre site. Et David Lortolari, lui, c'est RMC Sport. Et puis nous, à Radio Foot, Laurent Salerno à la réalisation et David Finzel pour m'aider à préparer l'émission Radio Foot. C'est parti. Décidément, la CAF aime bien reprogrammer des matchs. C'est ainsi que la Confédération africaine de football a hier réglé le problème survenu le 28 septembre dernier entre Génération Foot et le Zamalek. Le match retour, qui aurait dû se jouer fin septembre, se disputera le 24 octobre prochain. Alors, à l'origine du différend, rappelons un peu les faits. Ce match retour, il y avait eu un match aller du côté de Dakar et Génération Foot l'avait emporté sur le score de 2-1. Le match retour, donc, on est dans les tours préliminaires de Ligue des Champions d'Afrique. Il avait été programmé au stade du Zamalek, au Caire. Mais 3 jours avant la rencontre, la CAF avait en fait accepté la requête des Égyptiens de déplacer le match à Alexandrie. Ce qu'avait refusé Génération Foot en estimant qu'ils avaient été prévenus beaucoup trop tard. Résultat, Génération Foot s'était présenté au Caire, au stade, alors que le Zamalek, lui, se présentait à Alexandrie. Résultat, pas de match, pas de confrontation. À noter quand même que ce week-end-là, il y avait eu des matchs tout à fait normalement du championnat égyptien dans la ville du Caire. Alors comment réagit-on du côté de Génération Foot? Parce qu'on a beaucoup entendu effectivement les voix de ce club réclamer contre la décision de la CAF. On va en parler tout de suite avec le directeur de la communication et du marketing de Génération Foot, à savoir Talal Fall. Bonjour Talal.
Bonjour Annie.
Bonjour et merci beaucoup d'être en direct dans Radio Foot International. J'avais une question donc Talal Fall. Est-ce que cette décision de la part de la CAF tombée hier soir vous convient?
Dès l'instant qu'il y avait un vide juridique dans l'article 9 de ce règlement qui ne pouvait pas donner de victoire ni à Génération Foot ni au Zamalek, donc on pouvait s'attendre peut-être à rejouer ce match. Mais juste vous rappeler que ce n'est pas 3 jours qu'on a reçu la lettre d'Anthony Bafoué. C'est à 24 heures du match prévu au Caire, c'est-à-dire le vendredi à 13h26 plus précisément, qu'on a reçu son courrier nous demandant de délocaliser et de déprogrammer le match à Alexandrie. Donc nous, ce qu'on a fait, on a refusé d'aller répondre à cette convocation-là parce que pour nous, ce n'était pas une convocation, c'était juste une lettre d'information. Parce que quand même, une convocation, elle est faite en avant. Et donc, ça nous avait permis de pouvoir faire un plan de vol, de réserver notre hôtel et donc de faire notre préparation à partir de cette convocation-là. Maintenant, si Anthony Bafoué s'est donné des pouvoirs ou des largesses de pouvoir déprogrammer et délocaliser un match alors que le règlement ne le lui permet pas, donc nous aussi, on était en droit de pouvoir refuser légalement et de pouvoir faire constater ce qui a été dit par le règlement.
Vous, vous étiez au Caire, vous n'aviez pas spécialement constaté de menaces contre votre sécurité dans la capitale égyptienne ?
Mais non, du tout. Ça, c'est du pipeau, quoi. C'est-à-dire que c'est à la limite même insulter le règlement, bafouer le règlement comme il l'a fait, M. Bafoué. C'est-à-dire qu'il nous a pris pour des demeurés. Quand même, on a grandi, on n'est plus des petits garçons à qui on va manipuler comme ça, du jour au lendemain. Comment il peut se permettre de déprogrammer un match à 24 heures ? Un match qui est prévu le samedi, et tu nous envoies un courrier le vendredi pour nous dire que c'est délocalisé à 200 km du Caire. On est où, là ?
Le délai, théoriquement, aurait dû être d'au moins 14 jours.
Mais c'est un minimum. C'est-à-dire que si, lui, en tant que cadre de la CAF, il ne sait pas comment il faut faire pour déprogrammer un match, ce n'est pas à nous de le lui apprendre. Maintenant, alors, nous, par contre, on peut constater quand même qu'il est passé à côté.
Alors justement, cette décision d'hier, elle vous convient ? Vous me disiez, quand on a préparé cette émission, qu'elle vous donnait raison, en fait, cette décision.
Sur le plan administratif, c'est une victoire pour nous. Parce que quelque part, on a voulu nous embarquer dans une galère qui ne disait pas son nom. Soit il y avait de la manip derrière, parce que quand on a récusé l'arbitre dès le départ, avant même d'envisager à nous déplacer au Caire, c'est lui, Anthony Bafoué, qui est monté au créneau pour nous dire que la commission des arbitres refuse et maintient ces arbitres-là à diriger le match. Alors que ces arbitres-là n'ont même pas reçu de convocation, ils sont allés répondre d'une lettre d'information au Caire. Avant même que cette lettre d'information ne tombe, ils étaient déjà à Alexandrie à nous attendre pour dire que le match devait se jouer là-bas. Donc, en amont, tout ça, ça a été préparé. C'est-à-dire, aujourd'hui, les choses sont là.
Qu'est-ce qui a été préparé ? On voulait que vous perdiez ?
Mais, c'est-à-dire que, pour nous, ils avaient eu la pression des arbitres, des supporters de Zamalek. Parce que, quelque part, ils ne s'attendaient pas à perdre à Dakar. S'ils avaient perdu...
Ah, on a eu une coupure oui, Monsieur Fall, on vous entend à nouveau, pardon. Il y a eu une petite coupure.
Le problème, ne fait... Oui, je disais, s'ils avaient gagné ici à Kies, le problème ne se serait jamais posé. Parce que pour le tour préliminaire, ils ont gagné sur 13 buts sur l'ensemble des deux matchs. On n'a jamais parlé d'insécurité au Caire. Et donc, s'ils avaient gagné ici à Kies, ils n'auraient jamais parlé d'insécurité. Maintenant, le fait d'avoir perdu à Kies leur a fait réfléchir. Parce que si tous les grands, comme on dit, d'Afrique étaient déjà qualifiés, étaient sûrs de se qualifier pour les phases de poule, donc, c'était moins évident pour eux. Et à partir de ce moment, il fallait au moins chercher à gérer au moins la casse. Donc, parce que si on jouait au Caire et qu'ils se faisaient éliminer, ça aurait fait...
Là, il y aurait peut-être eu un problème de sécurité pour vous.
Ah ben oui, parce qu'ils avaient la menace déjà des supporters qui leur disaient « si tout pas, vous perdez ici, si vous vous faites éliminer, ça va faire une catastrophe. » Et donc, pour nous... Il était hors de question d'aller jouer ailleurs qu'au Caire. Donc, on est resté sur notre position et maintenant, on a tranché et on l'accepte. On va aller jouer parce qu'on n'a pas peur. Ce n'est pas une foudre de guerre, cette équipe-là. On a joué avec eux, on sait de quoi elle est capable. Et vraiment, on va aller se frotter à eux.
Vous qui êtes champion du Sénégal en titre, je le rappelle à nos auditeurs. Patrick Juillard a une question pour vous, Talafal.
Oui, bonjour Monsieur Fall. Et d'abord, je voulais dire que je soutiens totalement la démarche et la colère de Génération Foot, puisque je partage votre avis sur l'incurie de la CAF dans ce dossier. Est-ce que sur le plan des principes, tout de même, le fait que la CAF ait bafoué son propre règlement, est-ce que ça n'entache pas totalement la suite de la compétition si dans le cas où malheureusement Génération Foot venait à être éliminée par le Zamalek ?
Quelque part, moi, ce que je regrette aujourd'hui, c'est-à-dire des anciens joueurs qui sont venus pour pouvoir faire un changement comme ils l'avaient dit, aujourd'hui se permettent de bafouer les règles. C'est-à-dire que c'est là où il y a un problème. C'est-à-dire qu'on a parlé de changement au niveau de la CAF, qu'il fallait vraiment changer, apporter du sang neuf et tout. Aujourd'hui, ils doivent se regarder en face pour dire est-ce qu'il y a vraiment eu des problèmes à l'intérieur de la CAF. Maintenant, nous, on n'a pas peur. Et sincèrement, on était serein en allant au Caire en se disant qu'on pouvait décrocher une qualification. Déjà, le fait d'avoir choisi un arbitre qui vient de l'Afrique de l'Ouest comme nous a posé problème. Parce que cet arbitre-là, on a eu des antécédents avec lui. Donc, à Berkane, et donc le fait de choisir ce même arbitre qu'on a récusé et qu'il maintienne, et qu'après, qu'on nous dise que celui-là, alors que en général, on prend toujours les arbitres des pays frontaliers. Par exemple, pour jouer à Thiès, on a pris des arbitres mauritaniens. Qu'est-ce qui les empêche de prendre des arbitres libyens? Parce qu'on a joué contre El Makassar, qu'on a éliminé au Caire. Mais il y avait un arbitre libyen. Il n'a jamais sifflé de coup franc qui n'était pas dans le cours du jeu ou un pénalty imaginaire, rien de tout ça. Je pense quand même qu'il faut apprendre de cette affaire-là. Il faut se dire aujourd'hui, il y a un nivellement par le haut, que les équipes réputées faibles sont au même niveau que ces équipes-là, dont on parle des grands et autres. Donc, il faut qu'on change les règles, qu'on se dise qu'on est aussi prétentieux comme eux pour pouvoir disputer les phases de poule.
Philippe Doucet, une question pour vous, Talafal.
Oui, Monsieur Fall, je voulais savoir...
Bonjour, Philippe.
Bonjour. Vous disiez à Annie que vous étiez, si ce n'est satisfait, mais en tout cas vous acceptiez la décision de la CAF. Est-ce que néanmoins vous faites planer une menace du type aller aux tasses pour le principe, le fait que la CAF n'ait pas appliqué ses propres règlements et donc essayer, le cas échéant, de porter l'affaire un peu plus loin?
Non, je pense qu'on n'ira pas jusque-là parce que pour nous, il faut au moins garder l'esprit du fair play et de vouloir disputer un match. Philippe, je vais vous dire une chose. On était parti pour nous qualifier au Caire, très honnêtement. On n'avait pas peur de cette équipe-là. Il n'y avait rien devant. Ils ont regardé les garçons de haut pendant le match, dans les couloirs, avant de rentrer dans le terrain. Donc, pour nous, il n'y a aucun moyen de refuser ce match-là. Donc, sur le principe, on est resté. Sur nos principes, on s'est dit que le match était prévu au Caire à 20h. Nous, on a répondu à cette convocation-là. On est allé le vendredi pour demander d'accéder au terrain. Ils nous l'ont refusé. Le samedi, on a fait constater par un huissier, un avocat qui représente un huissier au Caire. Donc, pour le principe, on va aller jouer. On a gagné une bataille administrative parce qu'eux aussi, ils pensaient qu'on pouvait au moins nous faire éliminer par tapis vert, par forfait, alors que nous, on a respecté une convocation. Et cette convocation-là, c'est celle-là qui est valable. Il n'y en a pas eu d'autres. Maintenant, c'est à la CAF de pouvoir corriger les manquements dans son règlement pour que demain, des choses comme ça puissent ne plus se répéter. C'est comme si le Paris Saint-Germain devrait recevoir une équipe réputée faible. On attend mardi pour demander à cette équipe-là de ne pas jouer à la capitale,
mais de jouer en province, j'imagine.
En Normandie.
De
part, nous on se dit quand même, on est en Normandie, on est des gens réfléchis quand même. On ne va pas se laisser embarquer comme ça. D'autant plus que le chauffeur du bus s'est présenté à notre hôtel pour nous dire, allez, il faut monter donc, pour aller à Alexandrie. Mais on lui a dit, mais toi, tu viens d'où? Tu sors de quelle planète pour nous demander de monter dans un bus qui va tomber après en panne au bout de 30 km? Quand même, il faut être sérieux, quoi. Il y a des choses qui ne peuvent plus se passer au 21e siècle. On a appris, on a grandi, on suit le foot mondial depuis. Et aujourd'hui, on a créé une académie, c'est pour former des hommes. Et donc, nous, on est des responsables. Et aujourd'hui, on sait de quoi on vaut. Et on a formé des garçons tels que de Sadio Mané, de Diafra Sakho, c'est pas pour rien. On a porté un projet depuis plus de 20 ans. On est des amoureux du foot, on est nés dedans, et aujourd'hui, on comprend ce qui se passe à travers le monde. Donc, on n'a pas à se laisser embarquer par des gens qui viennent pour juste gérer de strampontins, et à la limite, qui n'ont même pas de bagou ou de responsabilité pour pouvoir diriger l'administration.
Merci beaucoup, Talafal, de nous avoir exposé eh bien, la position de Génération Foot à l'issue de cette décision de la Confédération africaine de football. Et donc, bonne chance pour ce match retour qui aura lieu donc le 24 octobre prochain. Merci beaucoup et à bientôt.
Merci à vous.
Merci.
À bientôt.
Rappelons-le, hein, Génération Foot, ami jumelé avec le FC Metz.
Qui porte d'ailleurs les mêmes couleurs grenat.
Mm-hmm, exactement, et c'est la porte par laquelle s'infiltrent souvent de très bons
grands talents,
joueurs
comme...
sénégalais.
Bien sûr, Sadio Mané, mm-hmm. Ismaïla Assar, Diallo, Diafra Sakho et tant d'autres.
Allez, on continue avec le football.
Allez-y. Non, mais symboliquement, je trouve que l'épisode de la dernière finale de la Ligue des Champions a été tellement calamiteux qu'il a entamé le crédit de la CAF. Et je pense que la protestation de génération et d'autres bientôt naissent un peu de là en disant « Bon, maintenant, il y en a marre. Gérez normalement vos compétitions, qu'elles soient équitables, qu'elles soient bien organisées. Il y en a marre. On ne se laisse plus faire. Je crois que c'est assez symbolique. Le match sera rejoué. Et c'est normal. C'est tout à fait normal qu'il soit rejoué. Mais je pense que c'est une bonne leçon.
Oui, et on imagine que la CAF donnera peut-être d'autres explications. Donc, on continue avec le Sénégal. Mais là, on descend sur le terrain. En musique. C'est beau quand on marie les rythmes du Brésil, de la samba et les musiques du côté de Dakar.
Très effectivement, beau métissage musical.
N'est-ce pas ? Eh bien, il y aura un métissage aussi et historique sur une pelouse d'Asie dès demain entre donc le Sénégal et le Brésil. Le vice-champion d'Afrique opposé au champion d'Amérique du Sud. Ce sera à 12h en temps universel et il y aura du beau monde sur la pelouse de Singapour. On va y venir. Cette pelouse, eh bien, avant que les joueurs n'y arrive, des supporters attendaient les lions de la Teranga à leur arrivée. Enfin, en tout cas, un lion particulièrement. Des supporters du côté de Singapour, des Asiatiques, supporters eh bien, qui s'intéressent beaucoup à la Première Ligue. Hein, Philippe, on ne s'étonne dans cette région du monde. On se souvient, quand il y avait eu le trophée des champions en Chine, c'était Herrera qui était pratiquement le Brésilien, en dehors de Neymar, le plus connu justement parce qu'il arrivait de la Première Ligue. Alors Neymar aussi était très attendu et lui aussi a signé des autographes. Lui qui fêtera sa 100e sélection sous les couleurs du Brésil. Est-ce un match prometteur ? En tout cas, c'est un privilège sans doute pour les Lions de la Teranga de se mesurer à cette grande équipe, 5 fois championne du monde. Et cette confrontation afro-sud-américaine est rare, mais le sélectionneur Aliou Cissé ne veut pas jouer l'attentisme.
On ne sera pas attentiste, on n'a jamais été attentiste. Je pense que c'est important de pouvoir exister à des équipes comme ça qui sont très talentueuses, qui ont énormément de qualités, qui ne leur faut pas non plus 10 occasions pour marquer un but. Ne pas faire d'erreurs individuelles, être très vigilant sur les coups de pied arrêtés, mais surtout garder notre identité de jeu, ce que nous sommes, être capable de mettre en place notre jeu, être capable de récupérer les ballons, s'il le faut jouer très haut, parfois si le jeu le demande aussi parce que l'adversaire nous fait reculer, d'être capable d'être compact derrière. Je crois que l'équilibre sera important dans ce match-là. Nous chercherons en tout cas à causer énormément de problèmes à cette équipe brésilienne tout en restant, nous, dans notre philosophie, c'est-à-dire jouer.
Aliou Cissé au micro de nos confrères de ITV du Sénégal. Aliou Cissé, il a l'effectif pour Patrick Juillard pour jouer contre ces Brésiliens et défier les vainqueurs de la Copa América.
La plupart des cadres de sont là, en effet. Sadio Mané, Idrissa Gueye, Koulibaly en défense. Il manque tout de même Bai Niang.
On y viendra.
Il y a eu un petit quiproquo sur son absence, mais en tout cas, il ne sera pas là.
Ni Edouard Mendy dans les buts.
Malheureusement,
le Sénégal s'est habitué.
Souffrant avec Rennes, mais il y a Fred Gomis avait déjà très bien pallié son absence pendant la CAN, donc il n'y a pas trop d'inquiétude de ce côté-là. Alfred Gomis qui fait d'ailleurs des bons matchs avec Dijon où il a été transféré cet été, on peut le dire. Moi je pense que c'est un match important pour le Sénégal, pour l'image du football africain, parce que les confrontations intercontinentales comme celle-là sont pas fréquentes.
Sud-Sud.
Sud-Sud ne sont pas fréquentes. Le Brésil est une des équipes les plus suivies du monde. Ses matchs, même amicaux, sont parmi les plus retransmis, donc les yeux du monde du foot, du monde entier, seront braqués sur ce match, sur Singapour. Donc le Sénégal, pour l'image du foot africain et pour aussi son propre prestige, puisque le Sénégal est numéro 1 africain au classement FIFA, se doit de faire une bonne prestation, de faire bonne figure. Et en plus, il faut savoir aussi que le Nigeria va jouer contre le Brésil dans quelques jours. Donc par fierté, il faut que le Sénégal fasse un bon match pour... ne pas éventuellement laisser ce privilège aux Nigérians. Il y a aussi une question de suprématie ouest-africaine et continentale dans tout ça. Donc je pense que tous ces éléments-là vont beaucoup motiver les joueurs. Et moi, j'espère que justement, ils ne seront, comme l'a dit Aliou Cissé, ils ne seront pas attentistes. Parce que effectivement, si vous êtes attentiste contre le Brésil, ça peut très vite mal tourner. Il vaut mieux essayer de jouer. Même si c'est un risque, il vaut mieux le prendre.
Philippe, est-ce que c'est un bon moment aussi pour cette confrontation, un moment où le Sénégal est premier au classement FIFA des équipes africaines et arrive avec un peu cette auréole de vice-champion d'Afrique et d'une compétition récente?
Mais au-delà du pur circonstanciel, c'est est-ce que c'est le bon moment, est-ce que le résultat sera ceci, cela, au-delà de ça, c'est extrêmement important pour l'Afrique. Aujourd'hui, il y a une Ligue des Nations qui s'est installée en Europe et qui fait que vous ne pouvez pratiquement plus jouer de matchs contre les Européens, qui étaient les adversaires classiques pour les équipes africaines. Si on ne veut pas être sclérosé sur le continent, faire des matchs amicaux dans des banlieues parisiennes avec 800 spectateurs, voire à huis clos, parce qu'on sait, l'organisateur sait qu'il ne fera pas de recettes. Donc à la limite, tu fais le match à huis clos dans des petits stades autour de Paris. Si on ne veut pas être sclérosé à ça, ces matchs, parce que celui contre le Nigeria aura aussi beaucoup de retentissement, un peu plus dans le monde anglophone bien sûr, mais il aura beaucoup de retentissement dans le monde. Ces deux matchs sont capitaux pour que demain, les pays africains et les meilleurs, Sénégal, Nigeria, c'est pas rien, soient invités dans ces matchs-là, qu'ils puissent faire de ce genre de match. Donc c'est vraiment très, très, un rendez-vous très important. L'Afrique, malheureusement, a fait zéro qualifié, ça ne nous a pas échappé, à la dernière Coupe du Monde. Personne n'a passé le cap
tour,
et est arrivé en huitième de finale. Il ne faut pas que ça se renouvelle. Et il faut que les Africains soient très présents ces prochaines années, parce que sinon, au bout d'un moment, on va laisser tout le monde, tous les Africains jouer entre eux. On prendra juste leurs joueurs dans leurs clubs, ça, on n'oublie jamais ça. En Europe, on n'oublie jamais de prendre les joueurs africains dans les clubs. Mais pour le reste, les sélections nationales, on s'en débarrassera vite fait. Hein.
David,
j'aime beaucoup le discours d'Aliou Cissé. Alors, je ne sais pas si ça sera concrétisé sur le terrain parce que ça va nécessiter la capacité sportive à le faire, mais ça présente deux avantages quand même. C'est que, en l'occurrence, il s'agit d'un spectacle. Alors ça, on peut le discuter après, mais c'est un spectacle.
Donc
c'est bien d'avoir cette attitude-là. Ça, c'est déjà une première chose. Même si c'est un one shot, même s'il n'y avait pas un match derrière avec le Nigeria et tout, mais c'est déjà intéressant pour le public qui va s'y raccrocher. Et puis derrière, au-delà de l'image, moi, je m'intéresse surtout à l'étalonnement sportif. Et là, forcément, Patrick parlait de l'exposition du Brésil et de la qualité aussi de cette nation-là, ce pays-là, de cette sélection-là. C'est intéressant sportivement pour le Sénégal. Donc ça, c'est vraiment, ça fait un double avantage, à condition bien sûr que ce que propose Aliou soit validé dans la démarche.
Oui. On a
sur le terrain
une centième sélection pour Neymar et
déjà
dans l'ombre de Neymar, on aura un certain Coutinho qui renaît de ses cendres barcelonaises du côté du Bayern.
Oui, mais alors justement, quand vous dites Annie dans l'ombre d'eux, ça m'inquiète beaucoup puisque quand il était dans l'ombre d'un autre géant, il était
frustré.
Mais
sans ombre, il n'a pas fait grand-chose non plus parce qu'à la Copa América,
c'est vrai.
C'est un peu éteint.
Ça vient doucement peut-être.
Mais il sera peut-être sur une bonne dynamique.
Oui. Et parce que en plus son entraîneur lui fait une confiance qui pour moi est un peu excessive déjà par rapport à d'autres, mais c'est un autre débat. Donc on va voir s'il justifie cette confiance aussi en sélection.
On verra après le match.
Il y a un autre enjeu, c'est qu'on va Patrick. On va passer à une Coupe du Monde à 48 équipes dans les prochaines éditions, et donc on se bat pour savoir qui va récupérer des places supplémentaires entre les différentes confédérations. Et donc le faire un bon match contre le Brésil pour une équipe africaine, c'est aussi important pour prendre un peu date dans cette optique. Ce sera aussi le cas d'ailleurs de l'Algérie qui va jouer la Colombie mardi prochain à Lille, un autre match de gala qui se jouera à guichet fermé et qui va être aussi très suivi, donc c'est important.
Le petit épisode Mbaye Niang, qui donc ne disputera pas plus le match que son camarade du Stade Rennais, Édouard Mendy. Alors il y a eu un moment de flottement, finalement il y a eu un message sur Twitter de Mbaye Niang qui encourageait ses camarades. Il les a vus quand ils sont passés par Paris avant de partir à Singapour. De tout cœur avec mes potes à Singapour pour Sénégal-Brésil, dit-il. Mais surtout, le président de la fédération sénégalaise, Augustin Senghor, a confirmé que le staff était d'accord qu'il ne participe pas. Il n'y a pas d'affaire.
Ouais, il n'y a pas d'affaire. De toute façon, le Sénégal a un effectif assez
étoffé
pour pallier l'absence de Mbaye Niang. Et puis, il n'avait pas fait l'unanimité pendant la CAN au poste d'avant-centre. Il était utile dans le jeu, mais peu efficace
comme
face
Olivier
au but.
Giroud.
Un petit peu. Donc, c'est
mais
bien.
Quand on gagne, tout le monde s'en fiche.
Ça donne aussi à Aliou Cissé la possibilité de tester d'autres joueurs et d'autres combinaisons, et c'est pas inintéressant.
Et puis, bon, il faut arrêter de confondre le football et le drapeau, quoi. Le football n'est pas l'emblème
c'est
national,
pas
c'est pas l'armée. On part pas avec un pactage pour défier les soldats brésiliens. Non, c'est un match de foot, il faut arrêter de tout rendre emblématique et dire que c'est un mauvais patriote parce que le mec est blessé. Bon, ça va quoi. Il y a un moment, il faut arrêter.
En tout cas, justement, j'aimerais juste qu'on s'arrête sur le contexte de cette rencontre, parce que aller jouer cette rencontre à l'autre bout du monde. Alors, je me suis un peu penchée sur la chose. Ils sont partis de Paris, 13 heures de vol au départ de Paris, 6 heures de décalage, 8 heures de décalage avec Dakar. Et pour ce qui est du bulletin météo, demain, eh bien, au moment du match, il fera 31 degrés, 78% de taux d'humidité. Alors, une époque où les joueurs sont très sollicités, c'est entre deux semaines et de championnat et de Ligue des champions européennes, avec en plus, on l'a vu, Philippe Doucet, des multiplications de blessures. On a une liste de blessés actuellement, on n'est même pas un quart des championnats. On a Messi, Cavani, Mbappé, Pogba, Thauvin. Et alors, du côté de l'équipe d'Allemagne, il y aurait 12 cadres sur 12. Le flanc. Hein.
Pas que des cadres, mais des joueurs importants. Oui.
Est-ce que c'est long voyage pour aller disputer un match, c'est pas un peu exagéré? On a vu Mané dire au revoir à tout le monde en disant je reviens dans quelques jours après être allé à Singapour et me taper 24 heures d'avion.
Bon, d'abord, il voyage dans des très très bonnes conditions,
d'accord,
faut pas l'oublier.
Mais...
Et ça me rappelle la polémique qu'il y avait eu quand l'équipe de France championne du monde, donc ça devait être en 2001, me semble-t-il, est allée en Australie en plein mois d'octobre, me semble-t-il, et que toute la planète foot en France a crié au scandale.
On sait que c'est beaucoup pour l'argent qu'il y a de tels déplacements.
Ah, bah bien sûr! Non mais évidemment, il y a des cachets. Le Brésil touche un cachet considérable. Le Sénégal, c'est 5 fois moins, mais c'est quand même pas mal.
Bah
très,
oui.
Très appréciable.
5 étoiles en moins sur
c'est
le maillot.
Oui, d'abord, oui. Et puis c'est quand même un cachet très appréciable, effectivement. Mais bon, bien sûr qu'il faut se poser des questions. Mais si on se posait ces questions-là, il faudrait se les poser pour tout. Pourquoi il y a 20 clubs dans les championnats? Pourquoi il y a autant de matchs de Coupe d'Europe? Pourquoi il y a autant de coupes, autant de trucs? Franchement, tout d'un coup, parce qu'il y a un long voyage, être un petit peu hypocrite là-dessus. Ceux qui peuvent se plaindre, c'est les Brésiliens.
Vous n'auriez pas aimé y être à Sénégal-Brésil?
Si, bien sûr.
Au milieu de l'Atlantique, sur une île, plutôt que à Singapour.
Le faire au Cap-Vert, par exemple.
À mi-chemin.
Non, mais les Brésiliens peuvent se plaindre, parce qu'ils vont jouer 3 jours après.
Oui.
Et eux, ils vont voyager après. Alors que les Sénégalais, à la limite, le vendredi... C'est le match est jeudi ou vendredi?
Demain, jeudi.
Vendredi, ils voyagent, ils reviennent une semaine avant leur prochain match de championnat. Ça va,
manque un match,
c'est
effectivement,
bon.
Le Brésil en a deux.
Ouais.
Après, c'est pas forcément quand même la bonne saison pour aller jouer en Asie du Sud-Est. On le voit avec la Coupe du Monde de rugby et les menaces de vent violent, de typhon et tout ça. Bon, c'était peut-être pas la meilleure date pour aller jouer à Singapour. Mais
même au mois d'août, au Trophée des Champions, il y avait aussi.
Mis à part ça, quand on a qu'un match sur un rendez-vous FIFA, effectivement, comme l'a dit Philippe, c'est gérable pour les organismes.
David ?
Il y a déjà de la polémique quand les clubs, en l'occurrence ce ne sont pas les sélections, mais quand les clubs se déplacent désormais pour aller à la rencontre de leur public de grandes audiences aux États-Unis, en Australie aussi, comme disait Philippe, ou en Asie, Chine et autres. Alors forcément, là, au petit quart de la saison, c'est les limites de ce que je disais tout à l'heure par rapport au spectacle. C'est-à-dire que là, si on n'a pas le stade climatisé comme on a eu au championnat du monde d'athlétisme, et encore la polémique là aussi, ça me paraît un peu, sur le plan sportif, encore une fois...
C'est pas très bon
pas
pour l'écologie, tout ça.
Ça reste un match amical. Hein.
Oui, d'accord.
Ça aura tous les ingrédients d'un match amical, c'est évident.
Philippe veut dire qu'ils seront à 70%.
Bah oui, oui, oui.
Ils seront à 90% d'humidité, mais à 60 ou 70% d'intensité, quoi, c'est ça.
Géant en sud-américain, l'Argentine qui rencontre l'Allemagne, ça sera aussi un match à voir oui. dans les prochaines heures. Mais je voulais m'arrêter.
Alors là, il n'y a aucune David. Préparation, hein, pour le coup. C'est ce soir le match, zéro préparation. Ils ont fait un vague rassemblement et on va direct sur le terrain. Mais est-ce que c'est idéal ? Non plus. Hein. Pas
mais
mieux,
quand hein. même, alors beaucoup jouent en Europe, on le sait, un de ces joueurs argentins, mais je pensais à cette liste de Joachim Löw qui évite donc de ses cadres principaux, qui a dû rappeler le banc et l'arrière-banc et la réserve.
Ouais. Et un nouveau aussi.
Oui. Est-ce que c'est finalement... Bon, il n'était pas très content, Joachim Löw, mais c'est peut-être aussi une bonne manière de tester.
Oui, mais alors, il a quand même tiré la sonnette d'alarme.
Parce qu'après, il y a un match qui compte, par contre, pour l'Allemagne.
Oui, contre l'Estonie. Hein mmh. Contre l'Estonie, pour lequel donc on reviendra à la normale avec Neuer dans les buts, puisque Ter Stegen va disputer le match contre l'Argentine. Parenthèse refermée. Il est embêté, le
parce
sélectionneur.
Parce qu'il connaît Messi en face, c'est pour ça.
Ah bah oui, oui c'est vrai. Non mais oui, voilà, ok, exactement. Il avait arrêté son premier pénalty en sélection à Messi, Ter Stegen, pour sa deuxième sélection. Mmh. C'est vieux. Mais il est embêté, le sélectionneur à Nice, parce que le temps de reconstitution de cette équipe est quand même assez restreint, puisqu'ils n'ont pas réagi dès après la débâcle de la Coupe du Monde. Ils ont réagi progressivement, fortement mais progressivement, et ils voulaient emmener un groupe identifié vers le prochain objectif. Donc là, forcément, c'est une forme de rechute, parce que il manque des joueurs sur lesquels ils voudraient compter en permanence. Et on va pas faire la liste, parce que ça nous prendrait la fin de l'émission, mais ils sont nombreux à être absents.
On y reviendra après la confrontation, et on reviendra sur cette équipe d'Allemagne qui nous semble être en reconstruction depuis assez longtemps. Mais en tout cas, un de ses cadres s'arrête, lui, définitivement.
Number 31, Bastian Schweinsteiger, FC Bayern Munich, midfielder.
Super Schweini, super Schweini, hey!
Hey! Start your engines. Schweinsteiger dinks it! Oh!
Alaba, Schweinsteiger!
Schweinsteiger!
Super Schweini, hey! Hey!
Deutsche Qualität.
Auf Wiedersehen.
Un petit montage clin d'œil hein, de Laurent Salerno. Ah, en plus, hein, Laurent, vous avez droit à une. Laurent et David, vous avez droit à une petite mention en allemand, n'est-ce pas, que je ne répéterai pas. En tout cas, un nouveau champion du monde donc de la Mannschaft se retire. Cette fois, eh bien, il s'agit du grand Bastian Schweinsteiger qui l'a annoncé par message, comme ça se fait maintenant, Twitter. Il l'a annoncé surtout après l'élimination de son équipe actuelle, là où il jouait depuis 3 ans en MLS aux États-Unis, cette équipe des Chicago Fire. Alors, surnommé Basti ou Schweini ou beaucoup d'autres noms aussi peut-être.
Oui, hein, ceux-là.
C'est ça, ceux-là. Il a 35 ans, l'ancien milieu de terrain du Bayern Munich. Alors on verra après, parce qu'il a un palmarès et une carte de visite absolument impressionnante, mais son sélectionneur presque unique, puisqu'ils étaient là depuis à peu près autant de temps en sélection nationale allemande, Joachim Löw a rendu hommage à ce grand joueur ces dernières heures.
Bastian Schweinsteiger, c'était une personnalité qu'il est rare de rencontrer dans le foot allemand. Un joueur de grande classe. Il est parmi les plus grands joueurs que l'Allemagne ait connus. Chacun d'entre nous doit l'avoir en tête lors de la finale 2014 au Maracana. Lorsqu'il a joué, alors qu'il avait le visage en sang avec la pommette éclatée, il s'est battu jusqu'à l'épuisement. Il a toujours eu cette volonté de gagner à chaque action. C'était un très grand joueur, une forte personnalité. C'est quelqu'un de très ouvert, toujours honnête, toujours disponible avec les fans. Il l'aimait bien. Bastian aura toujours sa place parmi nous.
Bastian Schweinsteiger, quelle image vous garderez de ce joueur ? Une image, Patrick Juillard.
Moi, l'image, c'est cette, évidemment celle que, qu'on a rappelée là, c'est la finale 2014. Le côté guerrier, mais moi, j'ai pas spécialement une image, mais j'ai plutôt une idée. C'est pour moi le type même du milieu de terrain qui sait tout faire. Il n'y a pas vraiment un poste défini, précis. Il peut jouer à beaucoup d'endroits au milieu de terrain, il peut faire beaucoup de choses et il les fait très bien. C'est un peu un équivalent, si on devait faire une comparaison, un peu de Steven Gerrard, un petit peu.
Philippe Doucet, vous avez une image particulière dans votre tête ?
Oh, moi, c'est plus des images avec le Bayern, davantage peut-être qu'avec l'équipe d'Allemagne, même si évidemment il était
13 ans avec
indissociable,
le Bayern, hein.
Il était un peu partout. Mais c'est plus, oui, c'est plus au Bayern. Je trouve qu'il incarnait remarquablement
l'esprit.
Cette équipe. avec un très bon esprit. Sur la fin, il est finalement devenu un champion assez sympathique, un côté un peu humain, moins hermétique, avec son idylle aussi avec la tenniswoman. Je sais pas s'il est toujours avec elle.
Ivanovic,
oui. Je sais pas si ça continue, j'en sais rien. Je ne lis pas.
Que c'est sa femme qui l'a remercié dans son message.
Sa femme? Mm-hmm. Ah, elle, donc.
Oui. C'est ça.
Oui, elle est devenue sa femme.
Seine
Frau. J'ai pas fait de gaffe.
Il y a une image aussi, peut-être, parce que sur la fin, on le voyait se battre et se débattre contre José Mourinho quand il est transféré au Manchester United, qu'il aligne si peu. On trouve ça si injuste. Et finalement, il y a cette finale de Ligue Europa où il a quand même contribué sur une saison au rayonnement. Oui, un peu. Mais en tout cas, il a aussi marqué son passage dans ce club-là, lui qui était l'homme de Bavière.
Oui, parce que c'était juste ce que disait le sélectionneur, c'est quelqu'un qui n'a jamais fait semblant. Et j'avoue, moi, avoir eu un peu de retard au démarrage de sa carrière lorsqu'il était excentré à gauche au Bayern, je me disais, bon, il n'a pas tellement de vitesse, c'est pas le technicien le plus fou du football européen, et je me disais, il va se retrouver en deuxième ou troisième rideau dans son club, et puis finalement, il a trouvé le rayonnement dont parlait Patrick, pour à la fin être l'aimant dans les derniers temps, et notamment cette Coupe du Monde 2014, être l'aimant, et on avait l'impression que c'était vraiment lui qui faisait tout. Enfin, qui était capable de tout faire, en tout cas. Donc, une espèce de... Ouais, il a jamais fait semblant. Et ça s'est justifié aussi après, lorsqu'il a passé l'apogée et qu'il était sur la pente descendante. Puisque, bien évidemment, même s'il y a la jurisprudence Kroos où ils se sont trompés, lorsque le Bayern laisse partir un joueur, c'est souvent parce que c'est fini, au top niveau. Et là, je me suis dit, bon, bah, il va...
Regardez Ribéry.
Il va... Oui, exactement.
Il n'y a pas que Kroos.
Il va aller prendre un peu de salaire en plus dans des clubs où il sera moins bon qu'avant. Mais effectivement, Annie, il a continué à avoir une qualité suffisante, et puis surtout aussi, et ça compte forcément dans le football, un impact sur l'environnement, sur les coéquipiers et sur les adversaires aussi. Après, l'épisode États-Unis américain, c'est plus, pour moi, c'est plus marketing qu'autre chose.
Il dit qu'il aimerait bien continuer dans le monde du football. Quel avenir lui voyez-vous, ou qu'est-ce qu'on peut imaginer pour lui par rapport justement à sa vision peut-être du jeu, ou alors par rapport aux instances? On connaît le Bayern qui aime bien aimanter ses anciennes stars.
D'ailleurs, il y avait un ancien du Bayern, Beckenbauer, qui a joué à New York, au Cosmos. C'est des choses qui ont aussi peut-être sont restées dans l'imaginaire en Allemagne. C'est pas un sujet qui a été abondamment abordé par les médias spécialisés avec lui, contrairement à d'autres. Philippe Lahm, on a tout de suite voulu le bombarder à des responsabilités élevées, fédérales ou dans le club du Bayern. D'autres aussi, comme Ribéry, à qui on promet un poste chez les jeunes. Avec Schweinsteiger, ça n'a pas été... Sinon, ça a été abordé, mais il n'a jamais, il s'est jamais enfermé dans une voie ou dans une filière pour l'instant. Et je peux pas vous donner d'informations brûlantes, chaudes, immédiates à ce sujet.
Mm-hmm. On verra s'il passe ses diplômes d'entraîneur, peut-être.
C'est peut-être, mais tous les bons joueurs ne sont pas forcément des grands entraîneurs ou des bons entraîneurs, mais c'est peut-être ce chemin qu'il prendra. À noter aussi, parce que c'était au même moment qu'était annoncé, alors un joueur qui a évidemment eu moins d'importance, mais les adieux au terrain quand même du Brésilien Michel Bastos. On s'en souvient en Ligue 1 en France parce qu'il avait passé 3 saisons à Lille, mais surtout à Lyon.
Et à Patrick Juillard.
On se rappelle d'un joueur à la frappe de balle absolument redoutable, qui avait de la dynamite dans les pieds, qui était très spectaculaire, qui était vraiment en plus un joueur de club qui restait assez longtemps dans ses clubs. Et moi, j'aimais beaucoup ce joueur. C'était un joueur de tempérament, qui donnait du plaisir aux spectateurs.
Il aurait pu faire une belle carrière, je pense, en latéral. Il n'était pas assez fort devant pour les grands de très haut niveau. C'est un joueur, s'il s'était reconverti plus vite, parce qu'il a joué un petit peu arrière-gauche justement avec l'équipe du Brésil, tout petit peu, où l'équipe du Brésil, les latéraux n'ont pas besoin de défendre, donc c'est assez pratique, donc c'est possible. N'importe qui peut jouer latéral avec l'équipe du Brésil, même Leonardo a joué arrière-gauche avec l'équipe du Brésil. Et peut-être qu'il aurait pu faire une très belle carrière à ce poste-là. Je pense la même chose d'André Ayew aussi. Il y a des joueurs comme ça qui peut-être auraient pu franchir un cap en reculant.
À 36 ans, en tout cas, il a terminé sa carrière du côté du Brésil, et il avait participé à une Coupe du Monde, et c'était la Coupe du Monde en Afrique du Sud. On continue et on va faire un petit tour dans les stades.
Ça dépasse Mon père m'emmène au Parc des Princes. Je peux pas m'empêcher de regarder les virages.
Roger Taillibert jette un regard d'expert sur les travaux du Parc des Princes. Son Parc des Princes, en quelque sorte, car il est l'architecte de ce stade inauguré en 1972, construit à la place du premier Parc des Princes, un stade vélodrome réalisé dans les années 30.
Moi, je veux garder la même fleur de béton qui est là. Hein, je ne veux pas du tout la perdre. Et de toute façon, les instructions des bâtiments de France, tout exigeait que je garde la forme pure qu'il y avait de ce bâtiment.
Roger Taillibert a disparu il y a quelques jours à l'âge de 93 ans. Il était donc l'architecte du Parc des Princes, édifié il y a une quarantaine d'années. Et en fait, ce qu'il avait imaginé, cette enceinte de béton, était une véritable révolution pour ce qui était des enceintes sportives. Après le parc, d'ailleurs, on l'avait sollicité et il avait conçu le stade olympique des JO de Montréal de 1976. Et si vous allez regarder les photos de cette enceinte, vous verrez qu'il y a des... Des airs hein, de ressemblance, ses arêtes notamment dans sa corolle de béton et dans sa corolle. Est-ce que cette enceinte, Philippe Doucet, qu'on fréquente évidemment assez assidûment puisque à Paris, c'est pas très loin d'ici, est-ce que c'est une enceinte différente des autres pour vous? Est-ce qu'elle a une âme par rapport à toutes ces enceintes grâce ou à cause des Coupes du Monde qui commencent à se ressembler un peu partout?
Oui, je suis assez d'accord avec vous, Annie, sur le fait qu'aujourd'hui, les stades se ressemblent tous. Ils sont très beaux, certes, mais ils ont une enveloppe qui, je dirais, est la même. Et celui-ci avait quelque chose de différent. Pour moi, c'est le stade le plus réussi qu'il y ait jamais eu en France. Encore à ce jour. Je pense que Lyon peut-être s'en rapproche. Lille dans un tout autre style parce que c'est une performance technologique.
Le toit
qui se ferme, etc. La possibilité de faire d'autres événements. OK. Mais en tant que stade de foot, je pense que le Parc des Princes était révolutionnaire pour l'époque. Si vous considérez que ce qui a été construit en France dans les années suivantes, ces Tours, ces Villeneuve-d'Ascq, c'est des stades antédiluviens, quoi, complètement datés, qui aujourd'hui, vous les regardez, vous dites, oh là là, c'est vraiment rien du tout, quoi. C'est des stades complètement ratés. Le parc est devancier, il est d'avant ces stades-là, et il est étonnamment moderne, vous le voyez encore aujourd'hui, vous regardez comme une enceinte moderne qui résonne fantastiquement, extraordinaire.
On voit extrêmement bien.
On voit bien de partout, oui. Et vraiment, c'est une réussite totale. Alors qu'il est très vieux, puisqu'il a été entamé en 70, avec plein de contraintes, le périph' qui tout d'un coup était fini à ce moment-là, se finissait à ce moment-là. Donc il fallait le faire dessus, donc il fallait pas qu'il soit trop lourd. Enfin, il y avait plein de contraintes. Il y avait, comme il le rappelle lui-même, les bâtiments de France qui regardaient ça de près, il fallait que c'est la même forme qu'avant, etc., à cheval sur le périph', etc. Il y avait plein d'inconvénients. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était vraiment le stade le plus réussi de France.
C'était notre Oscar Niemeyer, hein, du béton français.
Exactement.
David Lortolari.
Moi, j'ai vu mon premier match dans ce stade. Ça devait être à la fin des années 80. Et j'ai des souvenirs qui ont eu une amplification et un écho parce qu'il a aussi accueilli de formidables moments de rugby. C'est un autre sport. Mais ce que disait Philippe très justement sur l'écho aussi, formidable. Et une façon d'optimiser l'ambiance et le confort du spectacle. Ça, c'est vraiment... j'avais pas mesuré effectivement le côté pionnier et ce stade qui
c'est la même époque que le stade de Munich qui a vieilli, le stade olympique de Munich qui a vieilli à une vitesse incroyable
qui est daté,
par rapport au parc,
absolument,
qui est plus utilisé. Il est détruit aujourd'hui.
Je crois que le 1860 doit jouer dedans l'autre club.
Enfin, il est complètement daté.
Surtout effectivement cette espèce de corolle, hein, comme il dit, en béton et qui fait que ça fait aussi ça forme le toit des tribunes en fait, hein, pour tout ce qui est spectateurs dans le Parc des Princes.
Ils appelaient ça des encorbellements, comme une corbeille. Effectivement, c'est un stade assez unique et parce qu'en plus, il est en pleine ville, c'est rare. Et les deux exemples, finalement, ce n'est pas un hasard. Les deux stades les plus envoûtants en termes d'ambiance en France, c'est le Vélodrome et le Parc des Princes.
Et les deux,
ces deux stades qui sont en pleine ville.
En prise avec
la ville. On sort du stade, on a des immeubles, des rues, des stations de métro juste à côté. C'est ça le foot. C'est comme Mestalla à Valence, vous vous baladez dans la ville et d'un seul coup, vous voyez cet immense stade qui s'élève entre des rangées d'immeubles. Donc,
et Madrid.
C'est le foot. C'est pas des stades.
Bon, les villes évoluent.
C'est pas des stades entre deux échangeurs d'autoroute, entre le IKEA et le McDo.
Le
multiplex Gaumont qui est construit en périphérie. Donc voilà, l'essence du foot est là. Mais il avait su faire des contraintes d'être situé en pleine ville avec le périph, les rues. Il avait su faire de ces contraintes une force. Et à Montréal, où je suis allé il y a deux ou trois ans, Le stade, par contre, tombe un petit peu en décrépitude. Il n'est plus beaucoup utilisé. Même l'impact moral ne joue pas dans ce stade.
Ils ont
leur propre stade qui est à 500 mètres, effectivement. Là, c'était peut-être un petit peu trop ambitieux au niveau de la structure. Il était peut-être un peu trop en avance sur son temps. Il n'y a pas eu la bonne maintenance, alors que le stade...
Il a surtout eu pas de chance, parce qu'il y a eu des grèves énormes,
oui.
Qui fait qu'au moment des JO de 76, il n'est pas fini.
Il n'est pas prêt, stade. En fait.
Ouais. La grande tour, qui est emblématique,
165
n'est pas faite, n'est pas finie. Elle est embryonnaire au moment des JO. C'est-à-dire que le stade, les JO se font,
torche,
comme le Maracana de 1950, qui n'est pas fini, c'est à peu près la même histoire. Il n'est pas fini, le stade, au moment où les JO ont lieu, ce qui est quand même un peu dommage. Et... Ça l'a tout de suite vieilli, ça lui a tout de suite donné une histoire négative, alors que c'était une belle œuvre aussi. Peut-être moins beau que le parc, mais c'était une belle œuvre quand même.
Ce qui est amusant, c'est qu'un autre stade a été construit par ce même architecte. Je crois qu'on ne le sait pas beaucoup, mais on va l'apprendre d'autant plus. C'est le Khalifa International Stadium, où viennent de se dérouler les Jeux d'athlétisme, les Mondiaux d'athlétisme, où étaient nos envoyés spéciaux Antoine Grenier et Christophe Jousset. Mais surtout, il l'avait réalisé au Qatar, et ça sera un des stades essentiels. Alors évidemment, modernisé, on sait qu'il y a l'air conditionné dedans, mais en tout cas c'est à ce jour la plus grande enceinte sportive du Qatar, et ça sera celle qui accueillera la Coupe du Monde 2022.
Sans doute peut-être la finale d'ailleurs, puis c'est un
des
plus grands et des plus beaux stades. Alors là, avec les championnats du monde d'athlétisme, on n'a pas pu apprécier
pas
son
trop.
Acoustique, malheureusement, parce que c'était pas
si justement il y avait de l'écho.
Oui, il y avait de l'écho, mais on n'a pas pu apprécier, disons, la résonance, quoi, dirons-nous. Mais visuellement, c'est encore un très beau stade. Et comme vous l'avez justement dit, Annie, ce sont des stades qui ne ressemblent à aucun autre.
Voilà, qui ne sont pas faits sur un même schéma.
Sur un modèle, oui.
Voilà, et c'est dommage parce qu'on voit aujourd'hui que les stades sont tous faits sur le modèle de ce qu'ils appellent l'aréna, c'est-à-dire des stades ronds.
On pense au Maracana qui a été détruit pour, dans une coquille, refaire quelque chose qui est international.
Voilà, mais on a un peu perdu aussi les stades à l'anglaise qui auraient pu être modernisés et évoluer. Un stade comme le Parken à Copenhague, qui est un stade carré à l'anglaise mais fermé par des piliers comme des mini-immeubles aux quatre coins, est un stade superbe aussi.
Une question que j'aimerais vous poser à tous les trois, je ne sais pas si vous y êtes déjà allés, mais en tout cas vous avez une idée d'à quoi ressemble ce monument, c'est San Siro à Milan. Alors Philippe, oui, j'imagine que vous y êtes déjà allés, mais surtout ce stade, quand on le voit de l'extérieur, on voit quand même quelque chose aussi, un peu un pachyderme endormi dans cette ville de Milan. Et il y a un projet, alors ça va être décidé incessamment sous peu. La semaine dernière, Matteo Cioffi, notre correspondant, était à la présentation des projets. Il y a deux projets. Alors, les deux clubs se sont mis d'accord, l'Inter et le Milan AC, pour refaire un stade nouveau et moderne. Mais la mairie pense qu'il vaut mieux rénover San Siro. Peut-être pour garder l'âme de ce stade.
Oui, Philippe. C'est un vaste débat, parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres cas comme ça. Le Camp Nou, pareil, ce sont des vieux stades, en fait. Ce sont des vieux stades qui ont été rénovés plusieurs fois. Celui de San Siro a été rénové pour la Coupe du Monde 90.
Construit en 1926.
Oui, mais il a été très rénové en 90. Hein, les piles de béton extérieures, tout ça, c'est le décorum de 90, et évidemment pas de 1926.
Non, mais c'est sur une base.
Mais malgré tout, la structure, la base... elle reste très très vieille. Quand vous êtes à l'intérieur de ces stades-là, en bas, que vous visitez un peu, les dessous de tribunes sont assez presque angoissants, parce qu'ils sont très très vieux. C'est vraiment des stades très vieux. Donc c'est vrai que ça paraît séduisant de se dire on ne peut pas se séparer de San Siro. San Siro, c'est un stade mythique et il y a une ambiance dedans fantastique. Là, lui aussi, c'est un stade à l'acoustique remarquable. Donc c'est un stade où on a tellement vu de belles heures qu'on a envie que ce soit là que ça se passe.
Continue.
Et en même temps, quand on voit la réussite du Juventus Stadium, on se dit, est-ce que la raison, la vraie raison, ne serait pas de garder San Siro, mais de faire un autre stade plus petit, fait pour les clubs.
Comme à Lisbonne avec la Luz, par exemple.
Là, c'est compliqué parce qu'il y a deux clubs et non pas un seul.
Oui, mais les deux clubs sont d'accord et il y a deux projets, effectivement, notamment une genre de cathédrale en verre qui rappelle la cathédrale de Milan. Eh bien, réponse dans les prochaines heures, et Matteo Cioffi nous en racontera certainement plus prochainement. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à ce Radio Foot aujourd'hui. Laurent Salerno à la réalisation, David Finzel pour m'aider. À demain.